Vous écoutez RTL.
RTL. Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à tous, bonsoir Sidonie.
Bonsoir Thomas et bonsoir au public qui ben est oui. avec nous au salon de l'auto. On vous salue,
on est très signe. Heureux de vous retrouver en direct du mondial de l'auto. Vous pouvez nous rejoindre si vous nous entendez au salon 2.2. On vous attend pour vous faire partager notre curiosité. Et là, je suis sûr que la première question, elle va vous faire venir en masse. Écoutez bien.
Où devez-vous habiter en France pour être sûr de gagner au loto? Où consomme-t-on le plus de Viagra? Dans quelle ville fraude-t-on le plus le fisc? On va vous faire découvrir une France incroyable, loufoque et passionnante aussi. Et vous l'avez tous lu, bien sûr, vous avez même grandi avec, c'est le journal de Mickey, il fête ses 80 ans. Alors évidemment, nous, on a bien vieilli, mais lui, apparemment, pas du tout.
Dans le journal de Mickey, les sports. Dans le journal de Mickey, les jeux. Le journal de Mickey.
Et puis pour commencer l'histoire de deux hommes avant de devenir des marques mondialement connues, Renault et Citroën, c'était Louis et André, deux gamins qui usaient leurs culottes courtes sur les bancs du lycée Condorcet à Paris et qui ne se doutaient pas qu'ils allaient devenir des concurrents féroces.
La curiosité est un vilain défaut.
Paris, 1934. Sous la verrière du Grand Palais, deux hommes sont filmés ensemble pour la première fois. Vous ne connaissez pas leur visage, mais vous connaissez leur nom.
RTL.
Renault et Citroën. Deux géants de l'automobile.
Jusqu'à 22h.
Dans quelques semaines, l'un va mourir brutalement et l'autre va débuter une véritable descente aux enfers.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Hugues Nancy, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue, vous êtes l'auteur et le réalisateur de ce documentaire dont on vient d'entendre un extrait. C'est un doc de 90 minutes sur cette course permanente entre Renault et Citroën. Alors, on va remonter à l'enfance. Elle s'amorce dès l'enfance, c'est ça? Ils sont dans le même lycée?
Oui. De toute façon, quand on a fait ce film avec Fabien Bézière, on est allé de découverte en découverte. Et ce qui nous a frappé, c'était que c'était deux personnages dont tout le monde connaissait le nom et dont personne ne connaît l'histoire. Et ça, c'était la première interrogation. Et puis, deuxième interrogation, pourquoi est-ce qu'on ne connaît plus leur histoire? Mais parce qu'on a voulu la cacher. On a voulu la masquer pour différentes raisons, mais et donc à partir de ce fil-là, on s'est dit mais cette histoire est incroyable. Et j'en viens à votre question. Ce qui est d'autant plus incroyable, c'est que ils se retrouvent effectivement dans le même lycée parisien à Condorcet, dans le 9e arrondissement.
Ils ont quel âge?
Ils se connaissent pas. Ils ont 8 ans, 8-9 ans. On appelle lycée, mais à l'époque c'était une école où on appelait lycée, mais ça correspond à
l'école primaire.
Mais ils ne se connaissent pas. Et donc c'est comme si, donc d'un point de vue cinématographique, c'est et dramaturgique, c'est incroyable. C'est comme si tout avait commencé là et tout va mal finir pour les deux.
Oui, alors on y
parce
viendra.
Qu'ils ont la même passion, mais oui, tout a commencé là, ils ne se connaissent pas. Et il y a deux enfants, un qui est plutôt sage et travailleur, qui est André Citroën, et un qui est plus turbulent, qui est Louis Renault, qui est dans une famille de commerçants, qui n'aime pas beaucoup l'école et qui a plutôt tendance à fuguer le lycée. Mmh.
Sa famille, elle est riche à Louis Renault quand même?
La famille Renault est très riche. Ce sont des commerçants qui ont fait fortune dans le bouton, et notamment pendant la guerre de 1870, ils ont fourni l'armée française, et donc ils ont par exemple un immeuble qu'on peut encore voir aujourd'hui, Place des Victoires à Paris, et qui était un immeuble commercial très, très imposant. Donc c'est une famille très riche, commerçante, et dans laquelle ce petit garçon ne trouve pas encore sa place.
Et la famille d'André Citroën, c'est quoi son histoire?
Alors la famille d'André Citroën, c'est une histoire d'émigration qui vient de Hollande. Son père est plutôt d'une famille de diamantaires hollandais et qui vient s'installer en France et qui vient être dans le creuset de la République française.
Vous parliez de destin commun. Louis Renault et André Citroën, ils sont dans le même lycée et ils vont aussi vivre un même drame familial.
Oui, leur enfance est marquée par la mort précoce de plusieurs membres de leur famille et ce qui est vraiment commun, c'est qu'ils perdent leur père assez tôt tous les deux. André Citroën dans des circonstances plus dramatiques, parce que c'est des circonstances qui vont le marquer toute sa vie, puisque son père se suicide après avoir été grugé par des arnaqueurs sans scrupules. Il a été ruiné.
Il a quel âge, André Citroën, à ce
moment-là ? Il a 6 ans. Et en plus, il a toujours entendu son père se plaindre de l'antisémitisme, parce que on oublie, mais c'est une période fin du 19e siècle où il y a une poussée antisémite très forte. Et donc, ce père qui n'a pas réussi à faire face à ce qu'il considérait comme un rejet de la part de la France, puis en plus qui a été ruiné. Du coup, ça marquera toute sa vie. Louis Renault, lui, perd son père un peu plus tard, mais Louis Renault perd perdent leur père sans avoir pu faire la démonstration à ce père qu'ils pourraient réussir dans la vie. C'est ça leur drame.
Est-ce que les deux, Louis Renault et André Citroën, ont la même passion pour l'automobile et la mécanique ? Cette passion, est-ce qu'elle se développe aussi en parallèle, en même temps ?
Pas tout à fait. Alors, après, je ne veux pas prendre trop de temps à détailler l'histoire, mais en résumé, celui qui est passionné d'automobile, c'est Louis Renault. Et sa famille le rejette. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il n'y a pas d'automobile. Et donc, il faut bien aussi voir que c'était quelque chose qui était totalement saugrenu. La mécanique était quelque chose de totalement saugrenu. Ses parents et ses frères voulaient qu'il ait un commerce comme eux.
Un vrai métier.
Un vrai métier, voilà. Et la mécanique, c'était pas du tout. Louis Renault, André Citroën, lui, c'est totalement différent. Il va découvrir l'automobile que bien plus tard.
Et on va raconter dans quelques instants comment ils sont devenus l'un et l'autre, finalement, les symboles de la réussite de l'industrie française, et comment ils se sont concurrencés sauvagement, rageusement pendant des années. C'est dans un instant sur RTL.
Soyez fiers d'être curieux avec RTL.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Et on a le plaisir d'être en direct du Mondial de l'Auto, en direct et en public dans le Hall 2.2. Venez nous voir. Oui, approchez, nous sommes là pour vous. On parle automobile ce soir, on raconte le duel entre deux hommes et deux marques, André Citroën et Louis Renault. Hugues Nancy, on va comprendre maintenant pourquoi Citroën, c'est la marque aux deux chevrons. En fait, ça correspond à un déclic, c'est un moment très fort dans la vie, dans la carrière d'André Citroën.
Oui, c'est un moment où il vient de perdre sa maman. Pour lui, il avait perdu son père très jeune. Quand il perd sa maman, il est polytechnicien, hein, André Citroën. Donc, il était destiné à servir l'État. Et puis, le traumatisme de cette perte fait qu'il se demande que faire de sa vie. Et il décide d'être industriel, non pas constructeur d'automobile, mais industriel. Et donc, il part en Pologne, il ne sait pas quoi faire. Et il découvre la fabrication de ce qu'on appelle des engrenages à chevrons. Les engrenages étaient très utiles dans l'industrie, mais les chevrons... c'était très compliqué à fabriquer.
C'est donc, quoi un chevron ?
Un chevron, c'est un engrenage, donc c'est un triangle vers le haut.
Ouais.
Et donc c'est des engrenages qui sont beaucoup plus puissants parce qu'ils peuvent s'accrocher beaucoup plus efficacement. Et donc il ramène un brevet qu'il achète en Pologne et il crée en France une entreprise d'engrenage. D'où les chevrons. C'était un fabricant d'engrenages à chevrons, d'où ce logo des chevrons, en fait, dans le logo Citroën.
Et alors, après, on ne peut pas tout raconter, hein, mais ils vont, le parcours des deux va être parallèle. Louis Renault a déjà une entreprise automobile qui fonctionne. André Citroën va vouloir en créer une en rachetant une entreprise qui s'appelle Morse, c'est ça, si je me trompe.
Il travaille dans une entreprise Morse, voilà. Il dirige l'entreprise Morse.
Mais ils vont tous les deux aller aux États-Unis pour s'inspirer du modèle Henry Ford, mais la guerre éclate. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Est-ce qu'ils sont mobilisés ?
Oui, ils sont mobilisés, tous les deux. Et en fait, ce sont des industriels importants. Louis Renault dans l'automobile, Citroën dans l'industrie de ses engrenages. Et ils sont mobilisés, mais comme tout le monde est mobilisé. Et en fait, le gouvernement français n'a pas anticipé vraiment le fait que la guerre va durer et que donc on a besoin d'industriels parce qu'il va falloir fabriquer des armes, il va falloir fabriquer des automobiles, des camions, des canons. Et donc, un peu en urgence, le gouvernement, dans la panique, démobilise André Citroën, démobilise Louis Renault. Et André Citroën, lui, n'a pas encore l'idée de fabriquer des voitures. Il décide de fabriquer des obus parce qu'il sait que la France a besoin d'obus. Et donc, il est le premier à créer une chaîne de montage automatisée en important les recettes du taylorisme en France, en fabriquant des obus.
Ils sont en concurrence, Hugues Nancy, Louis Renault et André Citroën, sur ce marché des obus. Ils commencent déjà ce duel, ce face-à-face ?
Oui, il y a des petites tensions pour des histoires de de prix de vente. André Citroën, comme il fera toute sa vie, vend moins cher que Louis Renault. Et Louis Renault trouve que ce concurrent, ce jeune Citroën est quand même très gonflé de vendre presque à perte. Et souvent, Citroën fera ça. C'est-à-dire, souvent, il vendra à des prix très faibles, en faisant presque pas de marge.
Il a un rapport particulier à l'argent, Citroën. On en parlera un peu plus tard.
Oui, il a un besoin de réussite permanent. Et donc, il jongle un peu avec l'argent. Et donc, voilà, il y a un peu une tension. Mais le héros de la guerre, c'est le principal héros de cette Première Guerre mondiale, c'est Louis Renault.
Pourquoi ? D'abord pour les taxis, c'est ça ? Racontez-nous.
Alors les taxis, malgré lui, Louis Renault invente le taxi. Il en vend beaucoup à Paris, il en vend beaucoup à New York. On est avant la guerre, avant la Première Guerre. Mais il se trouve qu'au moment de la bataille de la Marne, il y a une panique dans l'état-major parce que les Allemands s'approchent de Paris. On est en septembre 1914. Et donc les taxis Renault rentrent dans l'histoire parce que ce sont eux, les fameux taxis de la Marne, qui permettent d'amener des soldats vers le front. Et qui sont les véhicules les plus pratiques pour amener ces soldats. Voilà. Donc, il est un héros parce que ensuite, il va fabriquer des camions, il va fabriquer des canons, et ce sont ces véhicules qui transportent, qui font sur la voie sacrée, qui va permettre de ravitailler Verdun. Voilà. C'est lui qui invente le char de combat.
Alors, justement, on va écouter un extrait de votre documentaire sur cette avancée technologique qu'est le char de combat.
Nous sommes en 1917. La guerre et sa cohorte de morts et de blessés fait encore des ravages. Louis Renault s'est acharné dans ses ateliers à concevoir une arme qui pourrait changer le cours de l'histoire. Le char de combat FT-17, un char ultra léger et rapide à fabriquer. Louis organise des démonstrations à Billancourt. Il convie ses collègues industriels et même son ancien condisciple du lycée Condorcet. Ce jour-là, à Billancourt, Renault bluffe Citroën l'ambitieux. André tel un élève admirant son maître est subjugué par l'incroyable char de Louis.
Pourquoi ce premier char de combat en 1917, il est important, ce char de combat créé par Louis Renault ? Qu'est-ce qui change ?
Parce que les armées françaises sont en difficulté et que il y a besoin d'avoir... Louis Renault est convaincu depuis longtemps qu'il faut une arme plus mobile et donc une artillerie plus mobile. Et donc il se bat pendant des mois pour convaincre l'état-major qu'il faut ce char peut-être un peu fragile, mais très rapide. Et le char va être très important au moment où l'armée allemande va lancer en 1918 une grande offensive. C'est notamment grâce au char Renault que les Français et les Anglais vont pouvoir contrer cette offensive et mener une contre-offensive qui finalement sera victorieuse.
Professionnellement, ça marche très bien pour Louis Renault. On a envie de s'intéresser un peu à sa vie personnelle. Est-ce que c'est un homme heureux, Louis Renault ?
C'est compliqué parce que il a toujours cette impression... Quand il est au sommet de sa puissance, à ce moment-là, ou juste après la guerre, en fait, il a perdu tous les membres de sa famille. Et finalement, ce sentiment de petit garçon qui n'était pas reconnu par les siens, une fois qu'il est le principal industriel français, eh bien, cette famille qui ne l'avait pas comprise n'est pas là pour le voir. Et donc, ça, je pense que c'est quelque chose qui le marque beaucoup. Et puis, en même temps, il se marie avec une jeune fille de bonne famille, qu'on disait la plus belle de sa génération. Donc il est heureux et en même temps tout le temps malheureux.
Et on va voir qu'il sort de cette guerre en héros, mais que c'est André Citroën finalement qui va révolutionner le marché de l'automobile en France. Sur quoi la légende Citroën va-t-elle se construire ? La prochaine étape, il faut vraiment la suivre. Restez avec nous, de cette course du siècle promet d'être passionnante. On vous la raconte dans un instant sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Première radio de France.
Pour Louis Renault, le siècle qui commence sera automobile ou ne sera pas. Louis Renault a désormais une obsession. Il veut fabriquer lui-même son automobile.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
André Citroën est désormais un industriel reconnu. Grâce à des chevrons qui vont connaître une longue et belle destinée.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Nous sommes avec Hugues Nancy, auteur et réalisateur de documentaires. On raconte maintenant l'après-guerre d'André Citroën, l'après-guerre de 1914. Cette usine du quai Javel qu'il a fait construire pendant la guerre, qui construisait des obus, il la transforme ?
Oui, il a une chaîne de montage. Il est le premier en France à créer une chaîne de montage. Et donc, il faut qu'il la destine à quelque chose. Il ne sait pas quoi et il anticipe un peu sur le modèle de Ford et de sa T4 aux États-Unis. Il anticipe que l'automobile peut être un produit de consommation. Et en fait, André Citroën invente l'automobile telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire telle qu'on la consomme aujourd'hui, et il invente la consommation, c'est-à-dire que pour la première fois, on fabrique une automobile à la chaîne, elle est livrée, prête à rouler, alors qu'à l'époque, je ne reviens pas sur les détails, mais à l'époque, il fallait un peu customiser soi-même sa voiture avec les roues.
Elle est prête à l'emploi,
à un tarif qui est abordable. La grande idée de Ford, c'est que ses ouvriers puissent se payer une automobile, et que donc c'est ça le critère. Et donc Citroën fait la même chose, ça s'appelle la 10HP, et pour la première fois, on voit des files de voitures sortir d'une usine en France. Mmh. Et Citroën invente. Et il va plus loin, c'est-à-dire qu'il permet aussi à ses clients d'acheter ses voitures à crédit. Et donc, il est l'inventeur du crédit à la consommation. C'est à travers...
Les banques ne le faisaient pas déjà ?
Les banques ne le faisaient pas.
Ah bon ?
Et en fait, ce sont les constructeurs automobiles qui ont imposé le crédit à la consommation dans l'économie française. Renault sera obligé de suivre par la suite. Il crée l'organisme de financement d'achat de ses voitures qui existe toujours, dont j'ai oublié le nom, mais quand on va dans un garage Renault, c'est celui-là que l'on prend pour financer sa voiture. Mais Renault va suivre Citroën. En fait, Citroën permet à ses clients d'acheter à crédit. Et puis, Citroën invente les succursales. C'est-à-dire qu'il permet à ce qu'on puisse exposer des modèles de voitures partout en France.
Et puis, ce que fait Citroën aussi, c'est qu'il invente la publicité pour les voitures. Il est très doué. Qu'est-ce qu'il a l'idée de faire, par exemple, Hugues Nancy ?
Il a l'idée de jouer avec... Il a compris que, en fait, la voiture doit avoir un nom, que ce n'est pas le modèle qui compte, mais c'est que c'est son nom à lui qui compte. Et donc, il a plusieurs... et notamment son coup d'éclat, à part le premier coup d'éclat, c'est dans le ciel de Paris. Il y a eu des affiches dans Paris qui disaient « Tel dimanche, regardez le ciel ». Et il avait payé un avion pour écrire en lettres de nuage, en lettres de fumée, le mot Citroën dans le ciel de Paris. Mais son grand...
Et il avait de la chance, il faisait beau et tout le monde avait pu le voir.
Et
même Louis Renault, j'imagine.
Mais il a toujours eu beaucoup de chance, Citroën, sur ses coups d'éclat. Mm-hmm. Mais son coup de maître, c'est évidemment l'éclairage de la Tour Eiffel. C'est lui qui finance le premier, le fait qu'on installe des milliers d'ampoules sur la Tour Eiffel. Et pendant des années, c'est-à-dire que pendant plusieurs mois...
Il le fait quand, la première fois ?
Il le fait pendant l'exposition des arts décoratifs, qui est en 1925 à Paris, et en fait il achète le droit de mettre son nom sur la Tour Eiffel.
Ça doit énerver ça, Louis Renault.
Ça exaspère Louis Renault parce que les Parisiens, pendant des années, vont voir tous les dimanches le nom de Citroën avec des chevrons éclairer la Tour Eiffel. Et la ville de Paris et la Tour Eiffel sont très contents parce que ça a financé le fait d'installer des milliers d'emplois.
Et les répliques, Louis Renault ?
Renault répliquera difficilement. Le vrai combat, c'est dans l'autre innovation, l'autre folie de André Citroën, mais qui est un génie de la communication. C'est les fameuses croisières à travers d'abord l'Afrique, donc la croisière noire, et puis il y aura la croisière jaune en Asie. Mais la croisière noire, en fait, Citroën invente ce que nous, à l'école, quand on était petit, on avait des séances connaissances du monde où il y avait ces films incroyables où on nous faisait découvrir le monde entier. Et Citroën invente connaissances du monde, en gros. C'est-à-dire qu'il fait, non seulement il lance une expédition, mais il l'a fait filmer.
Par qui ?
Et il l'a fait filmer par différents réalisateurs, notamment un qui s'appelait Léon Poirier.
Et par la Gaumont, c'est ça aussi.
Et voilà, et du coup, il se met d'accord avec la Gaumont pour que sa croisière soit diffusée dans les cinémas. Et donc, dans tous les cinémas, on voit des Citroën, mais on voit des Citroën de manière intelligente. C'est-à-dire qu'on voit des hommes qui ont des aventures extraordinaires et il se trouve qu'ils sont au volant de Citroën.
De Citroën, de voiture à chenilles. On en avait parlé ici même jeudi dernier.
Elles étaient très fragiles. Globalement, Louis Renault a toujours fabriqué des voitures plus solides que André Citroën, mais André Citroën a toujours su inventer.
Heureusement qu'on est dans un studio fermé là, pour pas prendre de coups.
Inventer des.
En direct du salon de l'automobile.
Alors c'était à l'époque,
À l'époque.
Mais André Citroën avait le génie d'inventer des voitures. Les autochenilles, ce sont les premiers 4x4. C'est la première fois qu'on peut rouler sur la plage, qu'on peut monter des escaliers, choses assez
importantes. Et Renault répliquera avec une voiture à 6 roues, si je me souviens bien ce que j'ai vu dans votre doc. Humainement, il y en a un qui est un flambeur, c'est ça, André Citroën. Mais au point de jouer effectivement au casino ?
Alors, deux choses. On peut jouer au casino sans forcément être un flambeur. En fait...
Bon.
C'est parce que vous jouez ou...
Non, mais bon, on ne peut pas avoir... Le problème d'André Citroën, c'est que c'est effectivement la réputation qu'on lui donnera quand on voudra ternir son image et quand, pour des raisons très complexes, on va lui prendre son entreprise et qu'il faudra un peu tuer l'image d'André Citroën.
D'accord. Hein, et il a donc elle est exagérée, cette image de
Flambeur. Oui, elle est exagérée, mais comme sera exagérée l'image de collaborateur de Louis Renault par la suite. C'est-à-dire qu'ils ont été victimes de leur succès, peut-être victimes de leur faiblesse, mais en effet, André Citroën jouait... Il jonglait un peu avec la trésorerie, mais c'est surtout une image que l'on voudra donner de lui pour justifier qu'on lui ait pris son entreprise.
D'accord, mais il vit quand même un peu plus à crédit et son entreprise aussi, on peut dire ça, alors que Louis Renault est dans une autre démarche industrielle.
Louis Renault n'aime pas les banquiers, il n'a aucune confiance dans les banquiers. Donc Louis Renault n'emprunte jamais d'argent. Et Louis Renault gagne beaucoup d'argent et il réinvestit tout dans son entreprise. Et c'est par son argent qu'il réinvestit qu'il va pouvoir faire prospérer son entreprise.
Quel genre de patron c'est d'ailleurs Louis Renault ?
Louis Renault c'est un patron...
On dit autoritaire.
Oui, c'est un patron autoritaire. Plus qu'André Citroën, et en même temps, c'est vrai que c'est une époque difficile. Louis Renault n'aime pas tellement les syndicalistes, il n'aime pas tellement la contestation, il n'aime pas tellement les grèves. Donc effectivement, il a une vision assez dure du travail, mais c'était quand même, ça reste un patron paternaliste qui réinvestit tout dans son entreprise. Et donc, André Citroën, lui, trouve de nouvelles idées, il achète la voiture tout assis aux États-Unis, il achète des brevets en permanence pour amener en France des innovations technologiques, comme il va inventer la traction avant. Et il le fait en demandant de l'argent aux banques. Et ses innovations technologiques ne lui rapportent jamais suffisamment d'argent au moment où il doit rembourser ses banquiers. Donc, en fait, c'est un fou de l'innovation, André Citroën. Et donc, effectivement, à un moment, il se trouve à court d'argent, mais c'est lui qui fait venir la traction avant en France et qui est notre modèle aujourd'hui de voiture.
Octobre 29, c'est le jeudi noir à Wall Street. Et cette crise économique qui va démarrer aura des conséquences politiques en France. En Allemagne, Hitler va prendre le pouvoir et faire basculer de nouveau le monde dans la guerre. Ce sera la fin tragique de deux destins absolument hors normes que l'on raconte avec vous, Hugues Nancy. Louis Renault et André Citroën, c'est dans un instant sur RTL.
Vous écoutez RTL. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Le talent de Citroën pour la publicité, on l'a entendu, cette très jolie publicité. On repart avec vous, Hugues Nancy. On raconte le duel et le destin parallèle de ces deux génies de l'automobile, Louis Renault, André Citroën. On va raconter la fin de l'histoire de ces deux hommes. Ils vont être broyés par le destin. Comment ça se termine déjà
pour André Citroën.
André Citroën, voilà.
Il est rattrapé par ses erreurs de gestion d'une certaine façon.
Il fait quelques erreurs de gestion et notamment ce qui le ruine en réalité, c'est la traction avant. La traction avant est une innovation incroyable qui est celle qui équipe toutes nos voitures aujourd'hui, mais Citroën la met en place trop tôt.
Et, on est en quelle année ?
On est en 1934 et en réalité, il investit beaucoup dans cette traction avant. Il essaie de la vendre à un prix pas trop élevé, donc il perd un peu d'argent. Parce qu'il croit beaucoup à cette innovation. Et en fait, il se trouve qu'il y a une coalition contre André Citroën parce qu'il doit beaucoup d'argent à la famille Michelin, qui était un de ses créanciers. Il doit beaucoup d'argent à la Banque Lazare. Et ses créanciers vont se liguer pour l'exclure de l'entreprise. Et donc, à la première difficulté, alors que l'entreprise avait les moyens de surmonter cette mauvaise passe...
Elle était saine, l'entreprise.
Elle était saine. En réalité, il fallait se débarrasser d'André Citroën parce que on voulait reprendre en main cette entreprise. Et André Citroën est spolié par la famille Michelin et par la Banque Lazare parce que il n'y avait pas de raison que... En fait, on lui dit, voilà, cette entreprise n'est plus à vous et vous n'avez droit à rien. Et donc, comme il avait, lui... N'avait jamais investi personnellement, il n'avait jamais fait d'économie, sa famille et ses enfants et ses petits-enfants, aujourd'hui nous l'ont encore raconté, sa famille se retrouve d'un seul coup sans argent alors que c'était un des principaux industriels français.
Mais quel était l'intérêt de Michelin dans cette histoire ? Il y avait un intérêt financier aussi ?
En réalité, Michelin avait peur de ne jamais être remboursé. Et que c'est toujours pareil, c'est que Michelin faisait des avances avec ses pneus, mais faisait beaucoup d'avances. Et à un moment, ils se sont dit, bon, si on continue avec André Citroën, on risque de, après la traction avant, il va encore nous inventer un autre modèle. Et donc peut-être qu'ils ne se feront pas rembourser. Et puis, il y a aussi, on est dans une période des années 30, qui est avec une montée de l'antisémitisme en France, avec des tensions, un culte de de l'ordre et du fait qu'il faut faire un peu le ménage et que tout, il faut que tout ça soit mieux géré partout en fait. Et il est aussi victime de ça.
Ça hein, c'est clairement. Pour André Citroën. Et en parallèle, puisque leur vie en fait évolue, avance en parallèle, et c'est ce qui est fascinant dans cette histoire, Louis Renault, lui, va être victime de cette guerre qui approche, et notamment à cause de sa famille. Racontez-nous pourquoi.
Alors oui et non, parce qu'en fait sa femme a une liaison avec Drieu La Rochelle, qui est un auteur d'extrême droite, et que il est victime, Louis Renault, de sa passion pour son entreprise, parce qu'en fait quand l'armée allemande occupe la France et quand le régime de Vichy organise la collaboration industrielle avec l'Allemagne, à savoir que toutes les entreprises françaises, notamment en zone occupée, doivent travailler pour l'Allemagne. Louis Renault, lui, il n'imagine pas une seconde de quitter. On lui a proposé de quitter Paris, de quitter Billancourt. Il venait de faire construire quelques années auparavant une usine incroyable à Boulogne-Billancourt, qui était l'usine la plus moderne de France.
Sur l'île Seguin.
Sur l'île Seguin. Et donc, pour lui, c'est pas imaginable de quitter son entreprise. Donc, il reste et il fait comme tous les autres industriels. Et les autres industriels chez Citroën, on collabore avec les Allemands, chez toutes les entreprises français, parce que de toute façon, il n'y avait pas de choix, c'était comme ça.
On lui reprochera aussi à Louis Renault d'avoir rencontré Hitler.
Oui, alors il fait des erreurs, parce qu'il est un peu dans, lui aussi, ce mythe d'un ordre nouveau, hein, quand même, Louis Renault. Mmh. Idéologiquement,
ça l'intrigue, ce qui se passe dans
oui,
la même
nazie. Oui, il trouve que, en fait, quand même, si tout fonctionnait avec un peu de poigne, ça serait pas mal. Mais il n'est pas aussi collaborateur que ce qu'on a voulu dire. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il fallait faire un symbole à la sortie de la guerre, et donc on décide de nationaliser les entreprises Renault, et donc de prendre son entreprise à Louis Renault. Pour ça, il faut dire qu'il a beaucoup collaboré. Parce que légalement, juridiquement, ça, politiquement et moralement, ça se justifie de nationaliser une entreprise. Légalement, c'est plus compliqué. Et donc, on va insister lourdement sur... Il sera le symbole qui permettra de ne pas ouvrir le dossier de la collaboration industrielle, parce que tous les autres ne seront pas nationalisés.
Et alors, ce qui est fascinant, Hugues Nancy, c'est que pour André Citroën, comme pour Louis Renault, finalement, le destin les réunit, puisque après que Citroën soit viré de sa propre entreprise et après que Louis Renault soit emprisonné, qu'est-ce qui se passe pour l'un et l'autre?
Les deux meurent assez vite, parce que cette idée est insupportable. C'est-à-dire que André Citroën meurt de lésions à l'estomac, parce que du stress accumulé année après année. Il meurt très vite, quelques mois à peine après avoir été viré de chez Citroën, de son entreprise. Louis Renault, c'est pareil, il est arrêté, emprisonné, et puis il tombe très malade et il meurt quelques semaines plus tard. Ce sont des hommes qui n'ont pas accepté, n'ont pas supporté la situation dans laquelle ils étaient. Et ce que nous on a trouvé difficile avec Fabien Béziat quand on a fait ce film, et qui nous a motivé aussi pour faire ce film, c'est que en plus on a voulu gommer leur histoire. C'est-à-dire que Michelin avait intérêt à oublier André Citroën, et l'État français qui venait de nationaliser Renault ne voulait pas entendre parler de Louis Renault. Et donc on a effacé l'histoire de ces deux hommes, et pourtant ils ont apporté beaucoup à ce pays.
Et d'un mot, on en a entendu un court extrait tout à l'heure de ce film, de ce documentaire. Il est passionnant. Il y a des archives qui sont surprenantes. C'était les archives inédites.
La plupart des archives sont inédites. C'est deux ans de travail de la Thaïlande, où il y avait un passionné de Citroën qui avait accumulé des milliers de photos, jusque aux États-Unis où il y avait un petit-fils de Citroën qui gardait des images que personne ne connaissait de famille de Citroën. Et surtout, on a retrouvé une caisse d'archives de famille de Louis Renault dans sa propriété de Normandie. Et on a découvert avec les petits-enfants de Louis Renault les images. On les a fait développer pour le film. Et donc,
il y a des films très personnels.
Et voilà, il y a des images de famille que même la famille de Louis Renault ne connaissait pas. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir dans ce film pratiquement que des archives inédites.
À découvrir dans ce documentaire La course du siècle, qui avait été diffusé sur France 3 et qui est disponible en DVD. Merci beaucoup, Hugues Nancy, de nous avoir raconté cette histoire fascinante. Voilà, si vous vous rendez maintenant sur les stands Renault et Citroën du Mondial de l'Auto, vous connaîtrez l'histoire des fondateurs de ces deux marques mythiques.
Vous écoutez RTL.